notre ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro.
C'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. On comprend très bien les enjeux. C'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
Les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nous, Gatry, nous acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la jeune fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour, mardi 25 octobre, 9h du matin, c'est l'émission En bas à gauche qui prend les ondes sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, une émission préparée entre autres par les apatrides anonymes qui nous donneront un point de vue sur l'actualité en ce qui a trait aux nouvelles lois et mesures sécuritaires mises de l'avant par le gouvernement conservateur. Également certaines nouvelles dans le milieu de l'immigration au Canada. On parlera également du procès d'Ivan Sancho, un citoyen basque qui était résident canadien. Il a été déporté vers l'Espagne pour subir un procès sous des accusations de terrorisme. Et pour mettre la table un peu avant de passer à ces nouvelles d'actualité, nous vous proposons d'écouter une capsule audio qui a été réalisée par la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. En fait, la FIDH, pardon, a publié un rapport, un très important rapport, il y a de cela un mois, c'est-à-dire en l'honneur du 11 septembre, ou plutôt pour souligner les 10 ans, puisque bon, depuis les attentats du 11 septembre 2001, ça fait maintenant 10 ans que la dite guerre antiterroriste est lancée par les puissances occidentales, par les États-nations riches de ce monde. Et la FIDH, donc, lance son rapport qui s'appelle « Dossier spécial 11 septembre, antiterrorisme et droits humains ». C'est un rapport qui s'encadre dans une campagne internationale qui est lancée par la Fédération et par ses groupes membres et qui vise à demander rien de moins que l'abrogation des législations liberticides qui ont été adoptées ou du moins qui ont été fortement renforcées au lendemain du 11 septembre au nom de la soi-disant lutte antiterroriste. Donc, dans cette capsule, vous entendrez une entrevue avec Patrick Beaudoin et avec Dan Van Ramdonk, donc respectivement président et vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et dans ces extraits, les deux militants pour les droits humains répondent à la question « Quel bilan peut-on tirer de la lutte contre le terrorisme qui a suivi les attentats du 11 septembre? Et quelles ont été les conséquences sur les droits fondamentaux de l'adoption du Patriot Act et de l'Antiterrorisme Act, donc deux mesures adoptées aux États-Unis, mais qui ensuite ont été reproduites par plusieurs pays au monde, dont bien sûr le Canada. Donc, je vous invite à écouter la capsule préparée par la Fédération internationale des droits humains.
en bas, à gauche. Enjeu et mobilisation.
Tout de suite après le 11 septembre 2001, et quand je dis tout de suite après, c'est vraiment tout de suite après, c'est le mois d'octobre pour les États-Unis et un peu plus tard pour l'Angleterre. Il y a eu des grandes lois, Patriot Act et Antiterrorism Act, pour les deux pays, États-Unis et Grande-Bretagne, qui ont été votées. Sont des lois qui sont énormes en termes de littérature, donc sont des paquets épais de réglementations et de nouvelles lois qui ont procédé à une réduction des libertés fondamentales de la part des États à l'égard d'abord de citoyens étrangers, mais aussi à l'égard de leurs propres citoyens, des propres citoyens de leur pays. Et du coup, ce qui a changé avec le Patriot Act et l'Antiterrorist Act, c'est que ça a instauré d'abord une ère de soupçon perpétuel. Donc on gouverne par la peur et par le soupçon. Ça a amené une régression dans les libertés fondamentales chèrement acquises, et pas seulement des droits civils et politiques, mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels. Ça a amené un accroissement de dépenses en matière de protection, de surveillance, d'armée, au détriment de dépenses en matière sociale, santé, etc., et scolaire. Et ce qu'on a pu observer, c'est que grosso modo, ça a permis à des États d'instaurer une nouvelle forme de contrôle social à l'égard de leurs citoyens, parce que même si on cible des terroristes qui ne sont pas a priori si nombreux que ça, l'ensemble des lois, l'ensemble des mesures, ça a une portée sur la totalité des citoyens. Si vous allez prendre un avion, si vous êtes un citoyen lambda, vous êtes censé passer par sous les fourches codines de tous les guichets automatiques et pas automatiques de contrôle des aéroports, dont on sait très bien qu'ils sont aisément contournables, et il y a des tas de reportages qui ont été faits. Alors, la question de savoir si ces lois d'exception, législations d'exception, sont pertinentes, dans les régimes, dans les pays occidentaux, la plupart du temps, non. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que n'importe quel crime soit poursuivi dans les pays occidentaux, je veux dire, a fortiori, un crime, acte terroriste, aurait été poursuivi. Dans la volonté de poursuivre un ennemi et de se construire une nouvelle croisade du bien contre le mal, on a fait en sorte qu'on avait besoin de législation particulière. Et les pays occidentaux ont suivi pour la plupart la tranchée creusée par le gouvernement américain, parce qu'encore une fois, où on était avec eux, où on était contre eux. Donc la question de savoir si ça se justifie, de notre point de vue, non. Encore une fois, les actes perpétrés pouvaient être poursuivis avec d'autres parties de l'arsenal juridique des pays. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le problème d'une loi d'exception, c'est qu'elle doit rester une législation d'exception. Or, comme elle s'instaure et elle s'inscrit dans le droit commun, on finit par plus très bien savoir que c'est une loi d'exception. Et les pratiques de loi d'exception, que sont les écoutes téléphoniques, l'interception de courriers, l'infiltration, le fait pour des agents des forces de l'ordre de pouvoir commettre des infractions sous couverture, toutes ces choses-là qui sont faites dans un certain nombre de pays et proposées dans les lois de certains nombres de pays, des méthodes particulières d'enquête ou de recherche qui sont censément des méthodes de renseignement plus que des méthodes de police, ben, toutes celles-là font partie maintenant de l'arsenal juridique possible. Et on sait très bien dans les pays d'Europe que même si elles ont été mises en place soi-disant pour lutter contre le terrorisme, elles sont aussi utilisées dans des affaires de droit commun qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, et notamment dans le trafic de drogue, dans les questions de migration clandestine, etc., etc. Donc, l'arsenal de la loi d'exception, non seulement rentre dans le droit commun, mais en plus déborde de la motivation de lutte contre le terrorisme vers la motivation de lutte contre tout le reste. Et donc, petit à petit, le contrôle social, via des méthodes intrusives de contrôle et d'arsenal de loi, ces méthodes intrusives ont pénétré le champ des outils des forces de l'ordre, et donc amoindrissent les standards de respect de droits fondamentaux, pour ce qui est du respect de manifester, du respect de réunion, du droit d'assemblée, du droit à la liberté d'opinion et de l'exprimer, etc., etc. Donc toutes ces choses-là sont dans l'ordre des choses de la loi d'exception qui s'inscrit dans le droit commun. À notre avis, rien ne justifie une inscription perpétuelle, parce qu'encore une fois, le problème du terrorisme, c'est aussi le problème de sa limite, en dehors de sa définition dont on attend toujours qu'elle soit particulièrement claire, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors, suite au 11 septembre, on a vu deux mouvements. deux mouvements, mais qui vont dans le même sens, même s'ils ne partent pas du même endroit. Deux mouvements qui sont inscrits dans la guerre contre le mal ou la guerre contre le terrorisme lancée par les États-Unis et l'administration Bush. D'un côté, les États occidentaux ont adopté tout un arsenal législatif de lutte contre le terrorisme, quitte à amoindrir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de leurs propres citoyens, avec tous les problèmes de stigmatisation des populations musulmanes auxquels on n'a pas échappé. Ça, c'est une chose. Donc on a d'un côté des démocraties qui acceptent, contrairement à leur slogan, de perdre une partie des libertés pour s'assurer une espèce d'illusion de sécurité. Et on sait très bien qu'on ne peut pas perdre la liberté pour s'assurer la sécurité. On perd les deux, en fait, dans ces circonstances-là. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, les pays qui ne sont pas dites démocraties occidentales, mais qui sont soit des pays de l'Est, comme la Chine, ou la zone Shanghai, justement, ou la Russie, ou certains pays d'Afrique, ou certains pays dictatoriaux, comme ceux du Maghreb, qui aujourd'hui se réveillent, sont des pays où on a vu apparaît des législations antiterroristes pour conforter le pouvoir répressif qui était déjà en place. Et donc, du coup, la lutte contre le terrorisme a servi d'alibi, de prétexte, de cache-sexe au renforcement d'une politique tortionnaire, d'une politique dictatoriale, autoritaire, qui était déjà une infraction aux droits fondamentaux. Une dernière chose qu'on a vue quand même, c'est le partage entre les pays occidentaux et les pays non occidentaux, c'est la réapparition de quelque chose qu'on croyait totalement condamné, c'est la torture. Et justement, dans ce transfert entre pays occidentaux et non occidentaux, on a vu la torture transférée des pays occidentaux vers des pays non occidentaux, mais sous couvert et sous contrôle des pays occidentaux, ce qui est particulièrement inadmissible. Donc on a pas gagner grand-chose en matière de liberté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les citoyens et les parlements nationaux ont la plupart du temps été laissés à l'écart d'un vrai débat sur les enjeux de cette lutte-là, eu égard au respect nécessaire des droits fondamentaux.
Le bilan est mitigé, mais principalement négatif. Au nom de la lutte contre le terrorisme, et aussitôt après le 11 septembre, ont été adoptés dans des pays dits démocratiques des législations extrêmement répressives. Le Patriot Act aux États-Unis, l'Antiterrorisme Act en Grande-Bretagne, par exemple, qui ont eu pour effet de permettre à ces États de maintenir en détention, pour des durées illimitées, sans recours au juge judiciaire, des personnes poursuivies. Donc à l'encontre de toutes les règles de respect du droit au procès équitable. Il y a eu également des pratiques qui ont été liées à cette lutte antiterroriste, qui ont été légalisées, de recours à la torture ou au mauvais traitement, en particulier dans le cadre de la politique américaine de George Bush, de façon tout à fait scandaleuse. Est-ce que pour autant, alors que l'on s'est affranchi du respect d'un certain nombre de libertés, le monde est devenu plus sûr depuis le 11 septembre 2001? C'est la question qu'il faut se poser. Or, force est de constater que non, le terrorisme est toujours là. On peut le voir en Afghanistan, on peut le voir en Irak, au quotidien. Donc on n'a pas éradiqué le terrorisme. Et ce n'est pas la meilleure façon de lutter contre le terrorisme que de s'affranchir des libertés. Au contraire, c'est en respectant les règles de la démocratie, les valeurs et les principes des droits de l'homme que l'on discrédite les terroristes et que l'on affaiblit leur cause. Ceci n'a pas été fait et c'est tout à fait regrettable. Les excès de la lutte contre le terrorisme ont également eu des effets particulièrement pervers. On peut citer l'un d'entre eux qui est très significatif, à savoir le fait que les régimes les plus autoritaires de la planète, les dictatures, se sont abrités derrière des lois dites antiterroristes, en réalité pour chasser leurs opposants, les démocrates, les syndicalistes, les défenseurs des droits de l'homme, en disant, ben voyez, nous ne faisons jamais que la même chose que les démocraties occidentales, États-Unis, Grande-Bretagne, France et autres. Je crois que c'est là quelque chose qui a été extrêmement grave pour les droits de l'homme. Alors, je pense que c'est là un reniement de la part du président des États-Unis qui est tout à fait regrettable, pour ne pas dire scandaleux. Le président Obama avait pris l'engagement très ferme, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de fermer Guantanamo dans l'année qui suivrait sa prise de fonction. Il ne l'a pas fait, Guantanamo est toujours là, Pourquoi ? Bien principalement, je pense, parce que le président Obama a hérité d'une situation qui, certes, est un peu délicate. On se trouve avec des gens qui sont détenus depuis de très nombreuses années dans des conditions assez épouvantables, qui ont subi torture et mauvais traitements. On ne sait pas très bien quels sont les tribunaux qui pourront être chargés de les juger. Il y a beaucoup de contestations là-dessus. Bref, il est assez difficile d'en sortir. Mais pour autant, je crois que ceci constitue des alibis. Quand on a la volonté politique de parvenir à un résultat, on trouve toujours les solutions. Donc si Obama avait eu cette volonté jusqu'au bout, il aurait fermé Guantanamo. En ne le faisant pas, je crois qu'il donne des arguments précisément aux terroristes qui peuvent continuer de dire, voyez, les valeurs de la démocratie revendiquées par les États-Unis continuent d'être bafouées. En fait, je pense que le président Obama a cédé aux pressions de l'opinion publique la plus rétrograde, la plus conservatrice aux États-Unis, qui ne souhaite pas voir fermer Guantanamo et qui surtout ne veut pas que les personnes qui sont encore détenues puissent revenir sur le sol américain pour y être jugées dans des conditions équitables par des juridictions civiles. Alors je crois qu'il faut rappeler que la position française est assez spécifique, puisque la France a été sans doute le premier État démocratique à adopter une législation antiterroriste très répressive, très stricte. Ce sont des lois qui remontent maintenant à 1986, suite à des attentats qui avaient eu lieu à Paris. Cette législation antiterroriste et les pratiques d'ailleurs afférentes ont été très très largement critiquées par des organisations de défense des droits de l'homme, dont la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme qui a été à la pointe du combat dans ce domaine. Mais ceci fait que lorsqu'il y a eu le 11 septembre 2001, la France n'a pas eu spécialement à aménager sa législation puisque celle-ci était déjà dans le sens le plus répressif qui puisse être. Alors, est-ce que pour autant le 11 septembre a changé la donne en France ? Est-ce qu'il y a eu des incidences ? Oui, parce que je crois que les autorités françaises depuis lors, avec des gouvernements en plus hyper conservateurs et sécuritaires, ont tiré argument du 11 septembre 2001 pour renforcer l'arsenal répressif français, y compris dans des domaines qui ne sont pas ceux de la lutte contre le terrorisme. Alors j'évoquerai en particulier, bon, par suite d'amalgames très faciles qui ont été faits, les problèmes de l'immigration et cette législation sans cesse plus stricte à l'égard des étrangers, en situation régulière ou irrégulière d'ailleurs, et puis des phénomènes tels que le contrôle des citoyens, et des citoyens qui sont pas du tout suspectés de terrorisme, mais que l'on veut avoir sous sa mainmise. Alors, c'est la vidéosurveillance, c'est le fichage, des opérations de fichage qui se sont multipliées, c'est tout un climat ultra-sécuritaire qui s'est développé dans la foulée du 11 septembre 2001. Alors, est-ce qu'on peut espérer que la donne change, en particulier avec les mouvements de libération dans le monde arabe, avec ce vent de liberté qui paraît souffler presque dans le monde entier, va-t-on revenir à la raison? En tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir.
À droite, certains participants affichent de manière tranchée leur conviction sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable, et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui? Par quoi?
Par qui? Par quoi? Il y a déjà 10 millions, hein? Il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Ça jase, on a fait le hala dans le village. Que vois-je? La Gaule est envahie par les sauvages. Outrage, on a fait criser tout le voisinage. En sortant les derbocas dans la salle de mariage, ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a assali la moquette, les murs et le carrelage. Semé la zizanie, foutu le feu à leur étage. Salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Sacrilège, y'a du halal à la cantine. La charba dans la cuisine, des hijabs à la piscine. Et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accro à
à l'aspirine. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane, on a passé la frontière, reprends à Doliprane. C'est de la chanson française qui leur fait mal au crâne. Tu m'étonnes qu'ils supportent plus nos coins. On a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait Aimé Césaire. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Ils voulaient du folklore et de la danse du vent, de l'exotisme. Servi avec un thé à la menthe, des petites pâtisseries, des fatmas obéissantes. Bientôt s'ils pourront ramasser, nettoyer, torcher leurs fientes. Mais que dalle, le projet a capoté, le plan a mal tourné. Laisse-moi jubiler, ils sont tout pâles. On a cassé le gouvernail, aïe aïe aïe. On leur a foutu la pagaille. Tu croyais qu'on allait dire merci? Merci la France, merci Sarkozy. Toujours poli, wallah je suis intégré. Tu peux toujours courir pour faire de moi un bruit, oui, oui. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Sympa cette musique.
Merci, merci.
Le métissage, le passage des cultures. Ces jeunes qui expriment leur colère, j'adore.
Ouais, c'est mignon, un petit beurre qui rappe sur ta musette. Vas-y, MC Cosette, fais-nous des chansonnettes. À poil contestataire, à la bonne franquette. Symbole d'intégration, c'est du Zola en casquette. Vas-y, fais-nous chialer sur un air d'accordéon. Raconte-nous tes petites histoires d'enfants de l'immigration. Raconte-nous les contrôles, les discriminations. Allez, réveillons-nous, un peu d'indignation.
D'habitude, j'aime pas le rap.
Ah bon?
Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous ne tombez ni dans la victimisation,
ça, alors,
ni dans les clichés. Et puis, quelle maîtrise de la langue française!
Va te faire mettre avec ta langue française. Des compliments, pour moi, c'est de la foutaise. Que du blabla qui me fait perdre mon temps. Alors emballe tes bons points et tes encouragements dans ma zone d'expression populaire. Y'a que des petites gens et des bouilloules en colère. Des râleurs, des cassos, des criseurs et des brailleurs. Tu marches avec nous ou tu vas voir ailleurs. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Vous venez d'entendre toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM le groupe de rap français Zone d'expression populaire avec la chanson Gueule du patrimoine, donc qui nous parlait d'immigration pour donner suite à la capsule de la Fédération internationale des droits de l'homme. Avant de passer aux courtes publicités, un petit anti-hebdo, donc le calendrier des activités de la semaine préparé par Marie-Ève.
À Montréal. Premièrement, un cours dans la lignée des cours de l'Université populaire à Montréal. Donc, invitation au cours Révolution féministe mercredi le 26 octobre. Le sujet sera l'intersectionnalité et alliance. Donc, une table ronde avec plusieurs invités qui sont toujours à confirmer. Pourrait-on éliminer les inégalités et l'oppression structurelle des femmes, abolir le patriarcat sans éliminer les autres systèmes de domination qui alimentent et se nourrissent de ce dernier? Ça aura lieu de 19h à 22h au bar populaire 4584 Saint-Laurent au métro Jean Talon, donc à 19h mercredi soir le 26 octobre. Également la même soirée, le lancement du livre Université Inc. des mythes sur la hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir, organisé en collaboration avec l'IRIS. Donc c'est un lancement causerie du livre d'Éric Martin et de Maxime Ouellette. Je vous invite à participer à une certaine entreprise de déconstruction avec les deux auteurs, donc à partir de 9 mythes sur la hausse des frais de scolarité. Donc ça aura lieu au SAT au 1201 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Donc ça débutera à 18h30 pour se terminer à 21h30. Donc c'est le mercredi 26 octobre. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir directement sur le site. Et j'ai pas de site, donc j'imagine que si vous tapez www.irisrecherche.qc.ca, vous allez pouvoir trouver les informations sur le livre et sur cet événement. Également, jeudi le 27 octobre, perspective anarchiste sur la grève étudiante. Ça débutera à 19h à la Belle Époque au 1984 Wellington dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Un nouvel espace tout nouvellement acquis. Donc, ce sera la présentation d'une chronologie de la grève étudiante au Québec de 2005 à aujourd'hui, suivie d'une discussion qui aura pour but de faire émerger une perspective anarchiste de cette lutte, d'un angle qui n'est ni réformiste ni bureaucratique. Nous cherchons à pousser la lutte universitaire au-delà de ses limites si nous dénonçons la privatisation de l'université, ainsi que son système de gouvernance autoritaire. Nous ne voulons pas de réforme structurelle. Nous n'exigeons point une université libre, mais bien une société libre. Une université libre entourée d'une société capitaliste est comme une salle de lecture dans une prison. Elle sert de distraction à la misère de la vie quotidienne. Nous cherchons plutôt à canaliser la colère des étudiants et des travailleurs dépossédés vers une déclaration de guerre. Donc, une invitation en fait à aller parler de la grève étudiante avec tout ce qui se passe actuellement au niveau des mobilisations étudiantes et de la hausse des frais de scolarité. Également, vendredi le 28 octobre, une soirée de solidarité avec les luttes des prisonnières et prisonniers politiques, donc qui aura lieu à la maison Normand Bithune, au 1918 rue Frontenac, au métro Frontenac. Donc, dans le cadre des rendez-vous de la maison Normand Bithune, une soirée de solidarité avec la lutte des prisonnières et prisonniers qu'il ou qu'elle ait été emprisonné pour des motifs politiques ou parce qu'on les considère comme des criminels en droit commun. Les prisonniers sont remplis de pauvres, de prolétaires et de personnes racialisées. Les prisons symbolisent le caractère de classe de l'État bourgeois pour qu'elles représentent un puissant moyen de coercition et de destruction de la volonté populaire. La lutte pour défendre les prisonniers et prisonnières et pour abolir le système carcéral est au cœur du combat pour mettre fin à l'exploitation et à l'oppression capitaliste. Donc, en même temps, ce sera la présentation de l'édition 2012 du calendrier Certainty, un calendrier des prisonniers politiques qui est disponible au Cooper Concordia, Cooper McGill, au prix de 12 $. Également la même soirée, cabaret Anarcadabran, donc organisé par le bloc des auteurs anarchistes. Donc ça aura lieu à 20h au DIRA 20035 Saint-Laurent, une soirée anarcho-mystique païenne avec le bloc des auteurs et auteurs anarchistes. Donc déguisement recommandé et micro ouvert.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836. Ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centreville.
Voyage Algarve Service Plus vous offre des week-ends à New York. Deux départs en autocar disponibles, soit du 14 au 16 octobre ou du 18 au 20 novembre. Le coût est de seulement $159 par personne en occupation quadruple. Pour plus d'informations, contactez Christina chez Algarve Service Plus au 514-277-1934, 277-1934.
Reggae down, I bring back the feel. L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et criolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
De retour à En bas à gauche sur les ondes Radio Centre-Ville 102.3 FM, comme on vous l'annonçait en début d'émission, on a une chronique préparée par les Apatrides Anonymes qui traite de l'actualité canadienne en ce qui concerne les mesures sécuritaires mises de l'avant par le gouvernement conservateur et des nouvelles du milieu de l'immigration. Ce sera interrompu par une brève intervention de notre collaboratrice de Blandine qui anime habituellement En bas à gauche et qui se trouve en Espagne actuellement pour suivre en fait le procès qui vient de se terminer d'Ivan Sancho, un Basque qui résidait au Canada. Il a été déporté vers l'Espagne pour subir un procès avec sous des accusations de terrorisme. Donc je laisse Simon des Apatrides Anonymes vous expliquer de quoi il s'agit.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Plein de sujets, encore une fois, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. En gros, je vais vous parler un peu d'élections en Tunisie, ben au Canada, un peu du cas Paula Ortiz qui a été expulsé au Mexique. Je vais vous parler d'une nouvelle lubie du gouvernement conservateur qui est d'enquêter sur des citoyens qui sont déjà naturalisés, mais qui vise à retirer la naturalisation et la citoyenneté à certains citoyens. Je vais vous parler d'Ivan Sancho, dont le procès en Espagne est terminé depuis la semaine passée, je crois. Et je vais terminer avec quelques petites annonces, deux, trois choses qui s'en viennent, qui, je l'espère, ne coupent pas votre calendrier, votre agenda militant. Alors, premièrement, bon, il y a eu des élections, les premières élections en Tunisie depuis... les toutes premières, je crois. Donc, c'était ce dimanche. On n'a pas encore de résultats officiels, mais bon, comme la plupart des pays qui ont une importante diaspora un peu à travers le monde, il y a des bureaux de vote qui sont ouverts dans plusieurs pays, dont le Canada généralement. C'est une pratique que la France fait, l'Italie fait ça aussi. L'Algérie, récemment, il y avait des bureaux de scrutin à Montréal. Ça a été un peu médiatisé, mais le gouvernement conservateur, comme vous le savez peut-être, a refusé la demande du Conseil de transition, enfin des autorités tunisiennes pour ouvrir des bureaux de scrutin un peu partout, là où il y a un bassin de population suffisant, comme que ce soit à Québec, Ottawa, Montréal. C'est une nouvelle mesure du gouvernement conservateur qu'on s'explique pas trop, qui n'a pas été vraiment expliquée par le ministère des Affaires étrangères canadien, qui peut-être vise à envoyer un message comme quoi les doubles citoyennetés, c'est pas quelque chose qui est souhaitable selon ce gouvernement-là. Bref, le Canada a refusé à l'instance tunisienne d'ouvrir des bulletins de vote dans des salles communautaires ou dans des sous-sols d'église, ce qui a fait en sorte que le seul bureau de scrutin qui était ouvert au Canada dimanche dernier était au bureau du consulat tunisien à Montréal. Donc, pour tous les Tunisiens qui habitaient, par exemple, ailleurs au Québec, ils devaient se rendre à Montréal pour pouvoir exercer leur droit de vote, ce qui est un peu ironique, étant donné que c'est des premières élections, que c'était très attendu et que le gouvernement canadien, normalement, devrait soutenir les efforts démocratiques des pays qui veulent se lancer dans l'aventure démocratique. Mais enfin, ça n'a pas été le cas. Même le Canada était le seul pays au monde à refuser cette demande-là à la Tunisie. Même l'Arabie Saoudite, où Ben Ali se trouve actuellement, a accordé aux autorités tunisiennes le droit d'ouvrir des bureaux de scrutin un peu partout, surtout dans des endroits privés, des salles communautaires, etc. Donc voilà, on remercie le gouvernement conservateur pour son effort dans la construction démocratique de la Tunisie. Et ben on se désole aussi pour tous les Tunisiens qui habitent Québec, par exemple, qui n'ont pas pu aller voter. Autre sujet, c'est rare que je vais faire ça, mais je vais vous recommander la lecture d'un article de La Presse, qui ou de Cyberpresse, si vous préférez.
Tu ne veux pas y penser avant un peu plus?
Ben, c'est parce qu'il se trouve que des fois, j'imagine la presse agit un peu comme une patrouille de flics. Il y a le bon et le méchant. Donc, ils ont certains chroniqueurs qui agissent à titre de bon pour essayer de contrebalancer ou donner une certaine crédibilité. Que ce soit Rima El Khoury, par exemple, ou je pense que c'est un article de Annabelle Nicoud sur Paula Ortiz, donc qui vit dans la grande région du district fédéral de Mexico actuellement, mais qui vit en fugitive. C'est le titre de l'article. Donc, si vous faites une petite recherche Google, Paula Ortiz, la fugitive, vous allez trouver cet article-là, qui est une lecture très intéressante. Ça nous résume un peu comment elle vit, comment elle se cache de son mari, qui est un policier fédéral, dont elle voulait fuir les violences. Ça parle un peu de la situation des femmes en général au Mexique, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Et ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que, bon, il y a toujours un réseau de solidarité qui existe autour des enfants, des deux enfants de Mme Ortiz. C'est regroupé autour de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, donc ceux qui voudraient apporter leur soutien, c'est deux enfants qui ont besoin de soins actuellement. Et leur mère n'est pas là, il y a une tante qui s'en occupe, si j'ai bien compris. C'est un cas qui est un peu particulier parce que Mme Ortiz avait obtenu le certificat de sélection du Québec, donc délivré par le gouvernement provincial, et pour des raisons... pour plusieurs raisons, le gouvernement fédéral a refusé la résidence permanente. J'essayais de trouver de l'information un peu sur les implications, c'est-à-dire quand le provincial accorde un certificat de sélection, quel est le pouvoir du fédéral de le refuser? Ben, il semble qu'il soit total, peu importe que le certificat ait été délivré par Québec ou non.
Mais en fait, c'est juste au Québec que ça peut arriver, cette situation-là, vu que les autres provinces n'ont même pas ce droit de rigueur qui est le certificat de sélection.
Oui, t'as raison, c'est seulement au Québec. Et ça amène même des gens penser que des fois, ça pourrait être plus simple pour certains immigrants qui veulent s'établir au Québec de faire une demande dans une autre province. Évidemment, ça pourrait apporter toutes sortes de complications. Ce serait probablement difficile à gérer dans la vie de tous les jours parce qu'il faudrait quand même démontrer qu'on habite au Québec. Mais moi, ça me pose quand même la question à savoir est-ce que ce certificat de sélection-là délivré par Québec est vraiment nécessaire ou ça fait juste finalement alourdir les procédures. Donc, la question est lancée. Je vais peut-être me pencher là-dessus dans une autre chronique. On verra bien. Un autre dossier qui m'est apparu, c'est dans une publication qui est publiée à Montréal, qui s'appelle atlasmedia.com. C'est aussi je ne sais pas si c'est un hebdo ou un mensuel, Atlas Media au pluriel, mais il y a une publication papier qui existe aussi. Ça couvre l'actualité du monde arabe en général et des communautés arabes à travers le monde et non seulement dans les pays au Proche-Orient ou dans le Maghreb. Il soulevait un cas, comme je vous disais en introduction, il y aurait à peu près 500 Libanais actuellement, mais incessamment, qui pourraient perdre leur citoyenneté, même s'ils sont déjà citoyens. Ce serait relativement une première parce que le chiffre que j'ai obtenu, c'est que depuis 1977, il y aurait eu 66 cas de dénaturalisation. Donc, c'est un mot que j'invente. Mais le gouvernement conservateur, encore une fois, on leur remercie de nous fournir en actualité. Il serait sur le point de délivrer des avis d'intention de retrait de la souveraineté à 500 Libanais. Le journal couvre surtout les problématiques liées aux communautés arabes. Donc, on pense qu'il y aurait à peu près 2000 personnes qui pourraient recevoir cet avis-là éventuellement. Et il y en aurait des milliers d'autres, mais évidemment, on n'a pas de chiffre officiel dont les cas seraient sous enquête actuellement par le ministère de l'Immigration.
Ça fait-tu qu'on parle de deux classes de citoyenneté, en fait, dans ce pays-là, maintenant?
Ben, en fait,
c'est
parce que, ben, évidemment, il y a ce qu'on peut penser, puis il y a les raisons officielles qui sont invoquées. Le gouvernement parle de... il y aurait deux cas qui motiveraient ce genre d'enquête-là, deux cas types, des déclarations frauduleuses lors de la demande d'immigration, souvent motivées par des conseillers en immigration qui sont aussi des fraudeurs, il faut le dire. Et l'autre cas de figure, ce serait des gens qui n'habiteraient pas le temps minimum requis au Canada, qui soi-disant profiteraient des services de santé et d'éducation, mais vivraient la majorité du temps soit en Europe, soit au Liban, ou bref, pas au Canada. Il y a même... Ben, tout ça, c'est souvent basé sur des allégations, et les procédures sont très longues actuellement, parce qu'il y en a des milliers à l'étude. Et c'est beaucoup alimenté par une ligne téléphonique de dénonciation qui a été mise sur pied aussi par les conservateurs il y a quelques mois. Donc, on peut dénoncer ses voisins, ses amis, maintenant, en toute impunité, dans la confidentialité la plus totale. C'est pas quelque chose qui avait été beaucoup annoncé, je pense, mais il semble que beaucoup des dossiers qui sont actuellement sous enquête proviennent de l'énonciation des pairs. Donc, c'est un peu inquiétant. C'est une question qui n'a pas été beaucoup médiatisée, celle-là. Donc, c'était étudié et moi, ça me fait un peu peur. Surtout qu'une fois que quelqu'un est citoyen, à un moment, ça devrait être blindé. On ne devrait pas pouvoir lui enlever sa citoyenneté.
C'est ce que je pense aussi.
Ben, parce qu'on le fait beaucoup pour les résidents ou pour les personnes en attente de statut. Mais normalement, pour les citoyens, on les laisse tranquilles. C'est fini, quoi. OK, le temps avance. OK, je continue. Donc, comment ça se passe, ça? Ben, c'est, on envoie des avis d'intention par la poste aux personnes. Donc, la plupart n'ont pas été prévenus. Ils reçoivent un avis chez eux comme quoi leur citoyenneté pourrait leur être retirée. Une fois que cet avis-là leur est envoyé, on gèle leur retour d'impôts provinciaux, on leur retire leur carte d'assurance maladie, on peut suspendre leur carte de renouvellement de carte de résidence permanente. Et comme les recours sont tellement longs, bien, ils se retrouvent en situation, finalement, qu'ils sont coincés ici. Ils n'ont plus leurs papiers, c'est tout retiré. En absence de service. Donc, je ne sais pas dans quel genre de situation ça peut mettre les familles, les parents, les citoyens. Enfin, bref, c'est...
Je ne sais pas quelle est la situation au Liban, mais il y a aussi beaucoup de pays où il faut renoncer à sa citoyenneté pour pouvoir devenir citoyen d'un autre pays. Donc, ça amène des situations assez précaires, j'imagine aussi, à la longue, ce genre de politique.
Ben, au Liban, on peut conserver sa citoyenneté et avoir une deuxième citoyenneté, comme c'est le cas en France, par exemple.
Ouais.
Ben, moi, ça me pose pas de problème. Je sais pas.
Non, mais j'imagine la situation dans laquelle des gens peuvent se trouver ayant renoncé leur citoyenneté pour avoir la citoyenneté canadienne et ensuite se faire retirer la citoyenneté canadienne suite à la dénonciation d'un voisin ou quelque chose de semblable. Ça ressemble à une chasse aux sorcières, tout ça.
Oui, je veux bien.
Exactement les mêmes mécanismes que l'Inquisition, genre.
Ben, exactement, mais combien de Français on connaît qui ont la citoyenneté française et la citoyenneté canadienne? Ils se font pas écœurer par les autorités?
Non,
ils peuvent retourner habiter 5 ans en France. Leur citoyenneté, elle leur est acquise, la citoyenneté canadienne.
Absolument.
Donc, il y a apparence de profilage et de chasse aux sorcières, effectivement, comme tu dis. Et pourquoi les Libanais, alors que, bon, il y a souvent des conflits armés qui peuvent être dangereux. Donc, ils ont toujours, même s'ils vivent au Liban, il y a toujours le recours de pouvoir venir se réfugier au Canada sans faire des démarches parce qu'ils sont citoyens. Donc, ça, je vois pas pourquoi ça leur serait refusé. En tout cas, c'est un gros sujet. J'avais d'autres sujets, donc je vais passer à un autre. Donc, Ivan Sancho, qui a été expulsé du Canada en 2008, je crois, sous prétexte que... Ben, parce que les autorités espagnoles le réclamaient pour le juger sous des allégations de terrorisme reliées à l'ETA.
Blandine, qui est partie avec une délégation la semaine dernière à Madrid pour le procès de Ivan Apaolaza Sancho. Blandine, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'objectif de la délégation à Madrid?
Oui, donc le comité Liberté pour Ivan, qui est un des comités qui fait partie de la commission populaire, le bureau de la commission populaire basée à Montréal, et donc a organisé cette délégation pour le procès d'un prisonnier politique basque à Madrid. Le lien entre le comité à Montréal et le prisonnier à Madrid, c'est que Ivan vivait au Canada depuis 2001, donc entre 2001 et 2008, il vivait au Canada, il a vécu à Vancouver et à Montréal, et en 2006, en fait, alors qu'il faisait tout simplement un tour de vélo à travers le Canada, il a été arrêté par la GRC et a été détenu pendant un peu plus d'un an à Rivière-des-Prairies, donc à côté de Montréal. C'est comme ça que des gens de Montréal se sont intéressés à son cas, puisque c'est un cas qui rappelle beaucoup de cas d'immigration et d'injustice qu'on a vu dans d'autres cas. En gros, il a été arrêté sous des allégations de terrorisme à cause des fameuses listes noires. On rappellera ces listes noires, c'est ces listes que se partagent les États, dont l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, dans laquelle il n'y a besoin d'aucun jugement. Et donc les allégations contre lui, c'était donc sa présence sur une liste noire, c'est-à-dire donc ce mécanisme dans lequel l'État espagnol peut simplement dire qu'il met la personne sur une liste sans aucune preuve, c'est-à-dire sans autre forme de procès. Et c'est à toute fin pratique à peu près impossible de sortir de ces listes là, puisqu'il faut en général l'accord des États pour le faire. Et que les États n'ont rien à prouver. C'est un petit peu un juge est parti et sentence tout inclus, d'où les hautes critiques contre ces mécanismes de liste noire dont il existe plusieurs sortes. Et également donc un mandat d'arrestation de l'Espagne. Finalement, Ivan a été déporté et notamment un des problèmes majeurs dans cette situation-là, c'est qu'il a été déporté et non pas extradé.
Donc le procès s'est terminé cette semaine. Il y a un excellent résumé qu'on peut lire sur le site de la Commission populaire, donc peoplescommission.com. Ben, on apprend un peu comment ça s'est déroulé, quels étaient les arguments de la défense, quels étaient les arguments de la couronne. Il y a beaucoup d'irrégularités qui ont été notées. Par exemple, on a relevé des empreintes de M. Sancho dans un appartement, paraît-il, où habiterait un terroriste déclaré. Par contre, ça a été des empreintes qui ont été prises sur des objets mobiles qu'on peut déplacer comme des livres, comme des sortes de choses comme ça. Des témoignages centrales de la preuve ont été obtenus sous torture, donc normalement, selon les conventions internationales, n'est pas valide. Il y a eu beaucoup de témoins anonymes aussi, donc ce qui n'est pas nécessairement une procédure tout à fait admissible, là, juridiquement, si on veut. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un jugement qui va être rendu dans les semaines à venir. Pour l'instant, il y a une délégation de Canadiens qui font de la pression sur Mme Sauvé, qui travaille en ambassade pour des affaires juridiques. Elle s'est dit sensible et concernée et semble vouloir peut-être aller frapper aux portes du gouvernement espagnol pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire ou des recours ou que les irrégularités soient un peu réparées ou pas retenues comme preuve. Il semble-t-il qu'un certain Stéphane Dion se serait montré sensible à ça, mais bon. Donc, en tout cas, on essaie quand même de responsabiliser le Canada à ça parce que c'est lui quand même qui a déporté M. Sancho vers l'Espagne pour qu'il soit jugé dans des conditions qui sont pas nécessairement correctes. Puis le Canada, en faisant ça, ben il respecte pas non plus certaines conventions. Si vous voulez peut-être avoir des nouvelles, ben c'est sur le site de la Commission populaire. Il y a aussi une adresse courriel qui est madrid@commercialinternational.gc.ca qui est pour exprimer aux autorités qui sont aux autorités consulaires canadiennes en place en Espagne que vous êtes pas d'accord avec cette situation-là. Très rapidement, juste une petite annonce. Le Comité des droits de la personne du Centre commémoratif de l'Holocauste de Montréal organise une soirée qui a l'air assez intéressante. Je ne sais pas si c'est dans votre agenda. Donc, ça se trouve à être le jeudi 3 novembre, Galerie Armat, 3255 Saint-Jacques. C'est sur... en gros, ça parle du traitement des demandes de réfugiés au Canada avec des représentants du Comité d'aide aux réfugiés, du Conseil canadien pour les réfugiés et des réfugiés eux-mêmes qui vont partager leur expérience. Ça conclut ma chronique.
Merci
Simon. Maman, parce qu'on est mis à part.
Y'a ceux qui savent où ils vont, y'a ceux qui savent pas ce qu'ils font. Y'en a qui battent des ailes et y'en a qui touchent le fond. Fuck that, j'fais partie de ceux qui veulent se battre, de ceux qui mangent la claque. J'en donne et j'en reçois, mais y'a pas soigné. Allez, chinabé, c'est pour ça qu'on me rejette. Peu importe où j'mets le pied, yo, j'suis mêlé, viens m'aider. J'suis mal pris, j'l'ai mal dit, j'te métis. Y'en a où pour certains, c'est une maladie. Y'a du racisme des deux bords, mais au champ de bataille, j'suis du bon côté de la médaille. Je suis un Amérindien, j'ai pas besoin qu'on me dise d'où je viens, j'apprends par moi-même, je reviens avec mes propres moyens. Je suis prêt pour la guerre, je laisserai personne derrière et je vais me battre jusqu'au bout comme un militaire. Le monde est rendu fou depuis le nouveau millénaire, tous devenus des accros au système monétaire. Le monde sans terre, autant de monde sans terre, reste debout, pas par terre, garde la tête en l'air. Mais yo, je reste observateur, je suis pas là pour un prédateur. Les combats, les coups bas font partie du quotidien. Si c'est pas ton cas, en tout cas c'est le mien. Ma façon de m'en sortir, c'est d'écrire des rap. Ma façon d'en prendre mes sens avant que je dérape. Ma façon de faire du bruit, même si ça dérange. Faut pas que je me venge, mais y'a de la haine qui sommeille. Faut juste pas qu'elle se réveille. J'atteins pas la perfection, mais au moins je m'essaye. Mon évasion, ma façon de prendre l'air, ma façon de m'en sortir en essayant d'écrire, yo, je veux passer, faire sortir le méchant. Je tourne pas ma langue cette fois, mais je reste méfiant. C'est juste la poésie, c'est plus qu'un rhyme, c'est une émotion, un mode d'expression.
Nous allons passer un petit document sur la mort de Jamal à la prison de Nanterre. Donc Jamal Germaoui, jeune homme de 23 ans, originaire de la cité de Lutte à Gennevilliers, est retrouvé inanimé dans le 8 heures de la prison de Nanterre le lundi 3 octobre 2011. Plongé dans le coma pendant une semaine, il mourra le vendredi 7 octobre 2011. L'administration pénitentiaire invoque le suicide par pendaison de Jamal, qui aurait été placé au mitard après avoir agressé des matons. La famille, elle, a découvert à l'hôpital le corps de Jamal couvert d'hématomes sans marque de strangulation. La famille a organisé un rassemblement devant la prison de Nanterre qui a réuni 200 personnes.
Je vais vous lire le petit texte qui a été envoyé. Jamal G fêtait ses 23 ans le 30 septembre dernier. Il était détenu à la maison d'arrêt de Nanterre. Il a passé une semaine dans le coma avant de partir dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre. L'administration pénitentiaire affirme que son état fait suite à une tentative de suicide au quartier d'isolement, au mitard plus exactement. C'est une cellule de punition. Alors il faut rappeler quand même que dans cette cellule, il n'y a aucun objet, pas de lacet, un peu comme donc dans les cellules de garde à vue. Jamal aurait dû passer en appel cette semaine, entre le mardi, c'est-à-dire 4 octobre. Sa famille ne lui connaissait aucun comportement suicidaire. Les hématomes de Jamal sont impressionnants et pourtant il n'a aucune marque de strangulation. Il y a beaucoup de doutes sur le comportement de l'administration pénitentiaire de Nanterre autour de la mort de Jamal. Cette même administration soutient que Jamal serait passé en commission disciplinaire pour avoir agressé un surveillant. À l'annonce de la sanction, il se serait tapé la tête contre le mur. Cet argument justifierait les multiples hématomes découverts donc sur le corps de Jamal par la famille. Sa famille et ses proches ont saisi la justice en prenant des avocats et en déposant une plainte afin d'obtenir la vérité. Tout détenu a droit à une protection et au respect de sa dignité. Pourtant, pour Jamal, cela n'a pas été le cas d'une manière ou d'une autre. Le petit texte rajoute, entre 1991 et 2010, on a recensé 125 décès et d'innombrables blessés par ou à cause de la police. Il est temps que les pratiques des forces de l'ordre, de la simple provocation verbale à l'homicide, cessent impérativement. C'est une question de survie, de se battre. Si on ne fait rien aujourd'hui, demain la sombre liste des familles endeuillées s'allongera. Pour toutes les familles et les proches de détenus, pour tous ceux qui ont perdu un être cher dans des violences policières ou pénitentiaires, nous devons réclamer la vérité pour que la justice soit rendue de façon impartiale et que les responsables de la mort des nôtres soient punis. J'avais juste envie de revenir deux secondes, puisqu'il y a eu quelques articles dans la presse concernant la mort de Jamal à la maison d'arrêt de Nanterre. Alors, comme d'habitude, l'administration pénitentiaire parle d'un suicide. Alors, un suicide par pendaison, alors que la famille n'a trouvé aucune marque de strangulation sur le cou. Vous pourrez entendre après le témoignage de son ami et de son frère qui l'atteste. Donc, il aurait été placé au mitard après avoir agressé un maton. Ça, c'est l'administration pénitentiaire qui le dit. Il dit dans les articles de presse qu'il aurait violemment réagi en se tapant. Alors, pour justifier les marques, parce qu'on voit très bien la famille, malgré toute l'horreur que ça peut représenter, a fait des photos du corps de Jamal. Et on peut constater sur ces clichés que vous pouvez trouver sur Internet un énorme point rouge sur le front. Et il y a également d'énormes hématomes sur le corps. L'administration le justifierait par le fait que donc Jamal se serait projeté contre les murs. Malheureusement, c'est un scénario dont ils se servent régulièrement. On se rappelle de l'histoire d'Éric Blaise, mort à Fleury-Mérogis, où effectivement, une fois de plus, on nous avait dit qu'il s'était fracassé contre les murs et que c'est cette violence exercée contre lui-même qui aurait provoqué la mort d'Éric ou là de Jamal. Tout ça est absolument impossible. De nombreux médecins l'ont attesté. Il est impossible d'avoir suffisamment de force pour se projeter contre un mur et provoquer sa propre mort. C'est impossible. Et pourtant, à chaque fois, ce même scénario revient donc sur le tapis pour mieux couvrir les éventuelles violences dont il aurait été le sujet de la part des membres de l'administration pénitentiaire. Eux, de leur côté, de toute manière, il y a déjà de nombreux témoignages qui attestent. Hein. Ils ont vu Jamal se projeter contre les murs et ils ont même témoigné par écrit de ce qu'ils auraient donc vu. Alors on est toujours face au même scénario, parole contre parole, mais malheureusement on le sait que dans la justice française les paroles ne sont pas égales, puisque il y a d'un côté la parole de simple famille selon elle, et puis de l'autre côté les paroles des dépositaires de l'autorité publique qui visiblement sont indiscutables. Elles font foi dans un tribunal face à des juges complices. Et puis aussi parler de cette maison d'arrêt de Nanterre, puisqu'il y a énormément de gens qui habitent à Nanterre, à Gennevilliers et tout, qui s'y retrouvent. Et il semblerait, selon certains témoignages, qu'une grosse violence existe à l'intérieur de cette maison d'arrêt, et notamment au Mitard, au quartier disciplinaire. Visiblement, les proches ne semblaient pas étonnés que des coups mortels puissent être occasionnés à des prisonniers.
Aung San Suu Kyi on house arrest, another Bhutto assassination. Could have stopped Sarajevo, we must confess, but we were planning on next invasion. Where are the leaders of the atomic age? Is it just another working day? Said he was coming, he was on his way, but he fell down a hole in the ocean. I Life is a foe, but the river runs dry. The desert takes over the grasslands. Space that separates us grows ever wide. Profiteer stokes the division. Something's not right, if something is wrong, but the news that I'll ever know one is told them. If we don't come together, it won't be long. These are the wars that face our generation. It's a peculiar situation when the leaders of the wealthy nation don't care for the damage they've done. So Bohemian mother hubba covered the investigation, but all they know is their retaliation. So they appeal to a dog's thirst, but he tips his side and he says no. Don't eat your way. Opinion of the end, I really don't know that we are aching for a part from the chance we're taking. Who's to say that we are destined just to fall at your feet?
Vous écoutiez la chanson State Radio du groupe Bohemian Groove, et c'est ce qui met fin à cette émission d'En bas à gauche. Non, j'oubliais de mentionner, après la chronique des apatrides anonymes, vous avez entendu le chanteur québécois Samian avec la chanson Mon évasion. Je vous invite à consulter le site web de l'émission pour retrouver toutes les capsules et les articles reliés au sujet de l'émission. Vous pouvez le faire au enbasagauche.wordpress.com. Vous pouvez laisser des commentaires, télécharger les entrevues et nous rejoindre pour proposer des chroniques ou des sujets d'actualité qui devraient être traités à l'émission En bas à gauche. Sur ce, bonne semaine sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Retrouvez ce rythme trépidant tous les samedis de 16h à 17h au cours de l'émission Ambiance Tropicale à Radio Centre-Ville 102,3 FM. Animation, blagues, entrevues, informations artistiques et humour font également partie du menu qui vous est servi par Monsieur Ambiance. Oh oui, c'est tout un rendez-vous. Oh oui.
Vous pouvez protéger votre fille contre le VPH, le virus responsable de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus et des virus génitales. Vous êtes les parents d'une jeune fille fréquentant la quatrième année du primaire ou la troisième année du secondaire? Votre fille pourra se faire vacciner contre le VPH. Pour les jeunes filles de moins de 14 ans, il vous suffit de retourner le formulaire de consentement qu'elle recevra de l'école. Le vaccin est sûr, sécuritaire et gratuit. Le vaccin contre le VPH est une réponse à un problème bien de notre temps. Protégez votre fille, faites-la vacciner. Un message de la Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
À vendre. Un Bluetooth, des soins pour le visage, des oreillers et plus. Venez voir ce qu'on vous offre sur la page Facebook de Radio Centre-Ville. Tous des articles neufs. Combien voulez-vous payer? Faites une offre sur la page Facebook de Radio Centre-Ville.
En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.